CPU, carré et petit utile.
Dans cette release de CPU, des toons qui font l'exception culturelle. De la 3D arrivée, hélas trop tôt. Un gros lapin pour rendre son soft moins pâteau. Et les matinées télé du week-end. L'équipe d'aujourd'hui, Chris O'Brien, Mira Chave, Solarus et Dascritch. Nos interviewés sont Tat Production, Jean-François Tosti. J'espère que tout le monde, public inclus, a mis son portable sur silencieux. Ok ? Eh ben c'est parti.
CPU, carré et petit utile.
Vous écoutez Radio FMR, CPU numéro 2, toujours enregistré depuis le Grand Builder chez Kito. Et bonjour, je suis Dascritch. Bonjour Myriam, qui est malade, donc on lui souhaite un bon rétablissement. Bonjour Chris.
Bonjour Dascritch.
Donc Chris O'Brien, tu es journaliste.
Oui, c'est moi.
Il faut te présenter.
Journaliste de VentureBeat. Je viens de Californie et maintenant j'habite à Toulouse.
De Beat, forcément, ça va très bien avec Radio FMR. Ah. Oh, pardon, c'est un programme pour enfants aujourd'hui. Solarus, bonjour.
Salut.
Pas la peine de se représenter, on l'a fait dans la première. Et donc, bonjour à toi, ami auditeur, et bonjour à toi, enfant du futur immédiat, toi qui trépignes devant tes cartoons et autres mangas. Commençons par te rafraîchir la mémoire sur la pop culture. L'orgue électronique a fait passer The Doors les portes de la renommée. George Lucas a pu obtenir de meilleurs budgets d'effets spéciaux en édictant la norme THX pour l'exploitation de ses films en salle. Et l'imagerie médicale numérique a amené la petite start-up Pixar au rang de grand studio de production cinématographique. Je ne vais pas t'en faire tout un film. Mais oui, les artistes se nourrissent des avancées technologiques, en tout cas bien plus que d'amour et d'eau fraîche. L'arrivée de l'Arduino, celle de la LED bleue et donc de la LED trichrome, qui peut reproduire autant de couleurs qu'un tube cathodique, tout ce petit monde a fait exploser la scène créative. Sans la LED, le concert de Daft Punk à Lollapalooza en 2007 n'aurait pas eu le même impact sur la scène musicale. Sans projection mappée ou programmation de robots industriels, les prestations scéniques du groupe pop japonais Perfume seraient bien plus ternes. Et sans les lasers, Jean-Michel Jarre n'aurait jamais fait du air synthé dans les années 1980, c'est-à-dire s'il était précurseur quand même le garçon. Bref, tu connais la musique. Oui, depuis l'usage de l'acier autoporteur dans la tour Eiffel, du béton précontraint dans l'opéra de Sydney, on en a construit des choses artistiquement belles grâce à des avancées techniques. Tout ça pour dire que dans la plupart des arts, il s'agit d'une délicate construction où s'architecture la créativité artistique et les progrès technologiques. Excepté en littérature générale, celle avec des majuscules sur les initiales, ce qui, à mon humble avis, explique les succès d'Éric Zemmour et de Michel Houellebecq, car ils appliquent la méthode ancestrale d'écriture à la plume d'oie trempée dans le fiel, tout comme Louis Ferdinand Céline quand il pigeait pour « Je suis partout, mais je m'égare et pas qu'en double fil ».
I'm sorry, Chris. I know this one is a little bit too French for you, but you don't make anything.
Quoi?
Enfant du futur immédiat, aujourd'hui, nous nous intéressons à un art qui a toute ton affection et qui est faussement simple. Effectivement, le dessin animé est un mariage délicat entre plusieurs arts, l'image et le son. En 150 ans, ceux-ci ont connu une progression stupéfiante. Ce qui fait la différence depuis Gertie, le dessin animé hybride où un dinosaure prend vie, à peine dessiné sur un mur par Winsor McCay, c'est qu'avec l'outil de création Flash, on peut facilement concevoir une fiction dans sa chambre d'étudiant, puis la mettre en ligne sur YouTube. Des techniques primitives comme le stop motion, où l'on prend des photos successives de poupées qu'on fait bouger, comme dans Wallace et Gromit, sont toujours d'actualité. Mais il est devenu nettement plus facile à mettre en œuvre avec les caméras numériques. La preuve ? Il y en a même qui le font avec Vine, c'est-à-dire avec une application de leur smartphone. Et puisque je te parlais tout à l'heure de Pixar, la première œuvre officielle sur grand écran de cette société fut la scène de bal dans La Belle et la Bête. Sans leur décor en 3D, difficile de rendre d'une manière aussi fluide ce gigantesque et ambitieux travelling. Et d'ailleurs, si tu as déjà vu nos voisins les Yamada, sache qu'il est à ce jour le dessin animé qui a coûté le plus cher produit par les studios Ghibli, car il est intégralement produit sur ordinateur avec des logiciels spécialement conçus pour rendre un graphisme de dessin au pinceau. En fait, le principe même d'utiliser des feuilles de cellulose transparente pour peindre des personnages qu'on superpose à un décor est désormais remplacé par des logiciels de compositing comme Combustion, After Effects ou Natron, qui ont révolutionné toute la production audiovisuelle. Dans pas mal de séries télé américaines avec acteurs ou des films à très gros budget, les réalisateurs utilisent les technologies de compositing pour créer un décor autour des acteurs sur fond vert. Parallèlement, l'industrie du dessin animé a connu une première évolution par sa consommation. Au début des années 60, avec l'arrivée de la télévision, on ne faisait plus de cartoons de Daffy Duck ou de Bugs Bunny toutes les semaines projetés au cinéma et d'ailleurs au scénario plus orienté pour les adultes. Mais cette industrie s'est tournée vers la production de séries animées pour la télévision, parfois franchement réalisées à l'économie, surtout dans les années 60-70. Puis arrivèrent la multiplication des chaînes de télévision, et même de chaînes sur le câble spécifiquement destinées aux enfants. Nickelodeon en 1977, The Disney Channel en 1983, Cartoon Network en 92, des chaînes qu'il fallait alimenter en nouveaux contenus, mais à un coût maîtrisé, comprendre un budget très contraint. Seulement sacrifier la qualité pour l'économie revenait à se tirer une balle dans le pied. Programme cracra égale repoussoir, fuite des jeunes téléspectateurs veut dire moins de rentrées publicitaires. Heureusement, au cours des années 90, l'informatique allait fortement révolutionner un art qui jusque-là travaillait essentiellement avec des crayons, de la peinture ou de la plasticine. À la fin des années 80 sont arrivés les logiciels qui permettent de créer rapidement des interpolations, ces dessins intermédiaires qui assurent un mouvement fluide, comme le permet Flash de Macromedia, depuis repris par Adobe, qui fit que ce logiciel, à l'origine prévu pour la production de CD-ROM, fut utilisé dans certaines productions audiovisuelles. Il y eut aussi de nombreux outils de modélisation de personnages qui permettent de créer rapidement des mouvements à travers des logiciels 3D. Par exemple Sega Animation ou Pixar Marionnette, des logiciels qui rendaient moins ardue l'animation 3D pour des illustrateurs en utilisant des métaphores directes, squelettes, muscles, peau et poils. Et enfin, tout comme il existe des banques sonores pour avoir, je ne sais pas, au hasard, des volets de cloche ou un bruit d'explosion nucléaire. Et merde.
Prends ça dans ta gueule!
Il existe des banques d'images, des banques d'objets 3D et maintenant des banques de mouvements où on a saisi des mouvements très réalistes de marches d'humains et d'animaux. Je terminerai sur un point purement économique. Le dessin animé est le secteur audiovisuel qui s'exporte le mieux hors de France. Bah oui, ce ne sont ni nos séries prestigieuses comme Plus belle la vie, ni nos films à acteurs reconnus comme Camping, ni nos documentaires, ni nos téléréalités, mais bel et bien nos Toons. Et d'ailleurs, c'est eux qui ont revitalisé l'agglomération d'Angoulême. Enfant du futur immédiat, toi qui es si friand des dessins animés du dimanche matin, regarde attentivement l'image. Il y a de l'artistique, de l'artisanat, du logiciel, des crayons, de la 3D, plein de techniques différentes et sans compter le son et l'histoire. Le dessin animé n'a pas fini de bouger et surtout de nous étonner.
Running and skipping, merrily tripping, watching the mornings unfold.
Vous allez le retrouver celui-là ?
My little pony, my little pony, what does the future hold?
Really? Coming at ya, a horseshoe and such Jimmy Choo's moon chick. We got a question to ask ya. Why are the runners living in the dream castle? Hello, my name is Matthew. Let's all be friends, it will be magical. Habit's a rabbit, now he's crawling down the rabbit hole. Ride the back of a Pegasus radical. And eating pony land, ain't nobody mad at ya.
My little pony, my little pony, isn't the world a lovely place? What?
pony roll call, cause you know we ponies gonna ball. A lickety split, magic stroscope, symposy, galaxy, Guffy and Cherry's Jubilee. Shiny on main speed, and at the starting gate, we never pay an entrance fee.
Oh, my little pony, my little pony, isn't the world a lovely place? My little pony, my little pony, everywhere you go is a smiling face. Running and skipping, they're probably tripping, watching the mornings go by. My little pony, my little pony, what does the future hold?
All our homies we be dancing, meanwhile you can see the ponies prancing. Rainbows and magic spells, buying every pony that sounds. And then we comb our luscious locks. A group of ponies is called a string, and this string rocks. You know, I ain't no phony, so back off, brony. I'm playing with my ponies.
My little pony, my little pony.
Isn't the world a lovely place?
Oh, my little pony, my little pony.
Everywhere you look, a smiling face.
My Little Pony, mon petit poney, reprise par le groupe de Scott Bradley, Postmodern Jukebox, qui est spécialisé justement dans les reprises avec un son jazzy années 20 années, jusqu'à années 70. Et donc il a fait un album où c'est des reprises de dessins animés. Donc c'est Saturday Morning Jamming, je ne sais plus exactement le titre, honte à moi. Pour la high-tech qui s'est exilé en France.
Bonjour à tous, c'est moi, le boucher de la langue française. Avant que je continue, s'il vous plaît, couvrez les oreilles de vos bébés. Rappelez-vous, vous avez été à la terre. Prête? Bon. Avant d'être arrivé en France pour détruire votre langue, je vivais dans la Silicon Valley depuis 15 ans. Peut-être vous avez entendu parler d'elle. Il est une terre fantastique qui est la maison de géants comme Google et Facebook et Uber et toutes sortes de monstres effrayants qui actuellement apprurent les bons gens de l'Europe. Cette terre est une grande terre d'innovation et d'entrepreneurs, mais dans ce pays, le succès n'a qu'une seule mesure, l'argent. Et le plus d'argent, plus le succès. Et pour cette mesure des succès, l'Europe est souvent considérée comme un échec. Moins d'entrepreneurs, moins de start-up, moins de capitaux de risque, la réputation de l'Europe en général et la France en particulier, et sa résistance au changement et ses preuves à embrasser les nouvelles technologies et l'innovation. Mais en fait, mon année de vie en France et Europe a montré que les gens ici ont embrassé l'avenir avec enthousiasme. Et on ne peut y voir des meilleures illustrations de la révolution et l'explosion dans l'industrie de l'animation de l'Europe. L'exemple parfait est la façon dont l'Europe a réussi à trouver une nouvelle intersection de l'art et du commerce. Il a résulté et une renaissance de l'animation numérique qui fait un impact dans le monde entier. Ce mois-ci, pour la quatrième année, Toulouse accueille le Cartoon Forum, un rassemblement d'animateurs de toute l'Europe qui présente leur nouvelle série aux producteurs de télévision du monde entier. Et à cette frénésie de la narration et de l'art et de faire offre, il est possible de voir ce nouveau monde prendre forme. Le premier forum est survenu il y a plus de 25 ans et a attiré 43 animateurs. L'année dernière, 850 animateurs de toute l'Europe sont venus à la hauteur de la nouvelle série de 10 ans animés pour la station de télévision. Cette année, ce nombre est passé à 900 animateurs. Les chaînes de télévision pourraient choisir parmi 85 nouvelles séries animées, dont 30 créées en France. Presque toutes les animations sont créées en utilisant des outils visuels et 55% en également un autre composant transmédia, comme une application pour le téléphone mobile ou un jeu vidéo. Le métier sur l'écran est une merveille, mais la capacité à raconter des histoires et de manière entière est aussi une révolution dans la créativité. Les outils ont fait l'animation de la création de l'animation plus accessible à un plus large éventail d'artistes, dont le seul limite est maintenant leur imagination. Et l'arrivée de nouveaux canaux numériques comme Netflix, YouTube, Dailymotion et dire que ces œuvres est presque immédiatement d'étendre des publics du monde entier. L'Europe en général et la France en particulier sont à l'avant-garde de ces mouvements. Il y a une telle croissance de l'animation européenne que l'année dernière, la Commission européenne a commandé une étude approfondie de l'Observatoire européen de l'audiovisuel des procédés du secteur de l'animation à travers le continent. Le rapport publié cette année a révélé que dans le cinéma, le Japon et les États-Unis étaient toujours les deux plus grands producteurs de films d'animation. Mais la France est actuellement le troisième avec 47
longs métrages
de films d'animation réalisés au cours des 4 dernières années, comparativement à 109 pour les États-Unis, et alors que la plupart du monde n'a qu'une idée. Des films tels que Les Mignons et Despicable Me sont créés à Paris par le studio Illumination Macouf. Cartoon Saloon, un studio d'animation en Irlande, a été nominé pour 2 Oscars dans les 6 dernières années. Sa rapport conclut que le succès récent dans le secteur de l'animation sont la preuve concrète de la capacité des industries créatives pour contribuer à la diversité culturelle et de stimuler la croissance de l'emploi tout en exploitant pleinement le potentiel des technologies numériques. Le problème ne se trouve-t-il pas dans l'excitation et l'énergie? En fait, il y a quelques raisons d'être un peu nouveau. Rien qu'en Europe, il y a maintenant 300 chaînes de télévision consacrées uniquement à des émissions pour enfants, dont la plupart de l'animation. Il y a-t-il vraiment un tel besoin? Et avec la croissance des canaux de distribution des séries et films d'animation, nous devons nous demander qui peut avoir le temps de regarder tout cela. On peut craindre que l'Europe est peut-être dans une boule quand on regarde le nombre d'animations et cours de production. Enfin, nous revenons à la partie créative. Lors du Cartoon Forum, plusieurs animateurs, lors de leur présentation, ont pris le temps de faire valoir qu'ils avaient travaillé dur pour faire en sorte que leurs animations numériques ne sont pas des produits froids d'un ordinateur. Quand les machines deviennent plus importantes pour le processus, cela affecte l'émotion. En fait, c'est le peut-être le plus grand défi pour les animateurs européens, pour ne pas être trop séduit par la technologie et pour être sûr de placer le cours, l'émotion, la passion et de la vie au centre de ses travaux. En d'autres termes, de l'animation et la technologie et du commerce doivent rester en équilibre. Dans le cas contraire, l'animation serait réduite à un produit plutôt qu'un art.
Hey. C'était pas évident, hein. Chris O'Brien, donc c'est 20 ans de journalisme, et le premier papier en français dit en radio.
Le français est fatigant.
C'est pas évident. Eh ben quand même.
J'adore.
Alors pour toi, le morceau était la coupure musicale était obligée parce qu'on va passer à la musique qui est la série qui emblématique d'un producteur de dessins animés assez connu en France.
It's the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? En his cheval, il craint personne. Les rattlesnakes, ils s'en tamponnent, like the peau rouge Orson Dalton. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. He rides in le soleil couchant with his fidèle rentemplant who is pas très intelligent. He's the emperor of the far west. When he begins his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. Give my sincere condoléances to all the gibier de potence. He'll kick you exactly où je pense. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. He always gives a coup de main to the veuve or the orphelin. He's a real good American. In the desert, there is personne. Never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. When he enters the saloon, nobody wants to make the clown. You don't riggle in this cartoon. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Ouais. Pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton.
Antoine Decaune, il n'a pas peur de personne, donc bande originale des nouvelles aventures de Lucky Luke, produit par Marc Dupont-Tavis. Vous écoutez Radio Éphémère sur 89.1 MHz.
Avec Myriam, on a traîné nos guettes la semaine dernière au Cartoon Forum 2015, un gros salon professionnel où les créateurs d'animation européenne pitchent leurs projets pour la télé devant les producteurs et investisseurs et potential partners. Avec 900 participants et 30 pays représentés, le tout sur 4 jours, il y a de quoi en avoir plein les mérites. Après quelques échanges passionnants, on a voulu voir ce que pensait le Toulousain Jean-François Tosti, créateur des AD Le Jungle, de toute cette effervescence et où on était Tate Production.
C'était une carré et petit utile.
Bonjour.
Bonjour, je m'appelle Chris.
Bonjour Myriam. Vous en êtes où alors chez Tate Production?
Alors chez Tate Production, on est né à la finalisation de l'écriture de notre projet de long métrage.
Oui.
Donc on a développé un univers qui s'appelle Les As de la Jungle depuis 5 ans maintenant. Il y a eu d'abord ce qu'on appelle un unitaire télé, un film d'une heure qu'on a fait en 2011 et qui s'est très bien vendu partout dans le monde. On a enchaîné ensuite sur une série pour la télévision de 52 épisodes de 11 minutes qui s'appelle Les As de la Jungle à rescousse. Et là, on est en train de fabriquer la saison 2 de cette série. Et naturellement, parce que ça, c'était notre première envie quand on a monté notre société, mes associés et moi, on a vu là l'opportunité de passer au long métrage, puisqu'on est maintenant avec évidemment quelque chose qui est en train de se transformer en marque, qui est vendu dans 180 pays, traduit dans une cinquantaine de langues, donc c'est déjà installé. Donc on est en train de finaliser l'écriture du long métrage, d'avancer sur son financement, et si tout va bien, on lancera la production très rapidement, puisque les intérêts sont très forts et très marqués, et très intéressants pour nous. Donc on devrait lancer ça rapidement pour une livraison du film en mai 2017 et donc une sortie dans les mois qui suivent si tout va bien.
Comment vous avez accueilli, enfin comment s'est passé en fait le fait que la série se déploie sur l'international?
Ça nous a fait très plaisir. Alors il faut savoir quand même qu'on travaille avec un distributeur international, c'est-à-dire nous, c'est pas notre métier d'aller vendre des programmes audiovisuels à l'étranger. Évidemment, on pourrait le faire, il y a pas mal de gens qui nous connaissent, mais on a toujours, nous, préféré passer par des professionnels pour faire ça. Donc on a un distributeur international dont c'est le métier, qui lui a commencé à présenter le projet sur les marchés, et ça a pris très vite et très fort. Donc pour nous, ça a été une vraie surprise. On espérait, comme tout producteur, que ça marcherait, mais on a été surpris vraiment par l'ampleur du succès. Et d'ailleurs, on est toujours surpris par l'ampleur du succès, mais on est super contents, totalement ravis. Hein. Mais oui, ça a été une surprise.
Et du coup, par rapport au long métrage, quels sont les enjeux pour vous? Je pense plus en termes de création et d'histoire.
C'est sûr que, bon, on a nous quand même, chez TAT Productions, on a déjà réalisé, écrit, produit, réalisé 4 spéciaux, donc des films unitaires pour la télévision qui duraient soit une demi-heure, soit une heure. Donc on a quand même déjà l'habitude de raconter l'histoire un peu plus longue. C'est vrai qu'après, quand on passe au long métrage, bon, bien sûr, on est sur une durée en gros de 1h30, 90 minutes, et le cinéma est quand même beaucoup plus exigeant en termes de narration. Il faut avoir quelque chose d'impactant qui s'adresse, nous c'est déjà le cas heureusement, mais encore plus peut-être à tous les publics, pour être concurrentiel sur le marché, c'est-à-dire intéresser et les enfants et leurs parents, mais aussi pourquoi pas des adultes tout seuls qui auraient envie d'aller au cinéma voir ça. Donc on a ce défi à relever, encore rendre plus adulte et peut-être plus complexe, mais sans que ça devienne compliqué pour les enfants. C'est là où c'est difficile notre écriture pour séduire tout le monde. Techniquement, on est déjà quand même très très avancé, puisque ce qu'on fait, c'est de la télévision mais qui ressemble beaucoup à du cinéma. C'est d'ailleurs pour ça que ça se vend si bien. Donc on va encore élever notre niveau technique, mais finalement, pas tant que ça, on va aller plutôt affiner tout ce qu'on n'a pas le temps d'affiner dans le flux de ce que c'est faire de la télévision. D'ailleurs, on sait tout faire, mais souvent on n'a pas le temps de le pousser à bout. Donc là, sur le long métrage, on est quand même dans une autre économie, on a plus d'argent, donc on va pouvoir vraiment aller au bout de toutes les choses. On va au bout de l'écriture d'abord, mais on va aller au bout de la réalisation, on va aller au bout de l'animation, on va aller au bout de tout, quoi. Donc pour nous, c'est hyper plaisant.
Ça veut dire qu'en termes de dessin aussi, ça, ça vous permet de pousser des choses plus loin
tout,
ou de,
on pousse tout, tout plus loin.
Tout plus loin.
Voilà, en gros, mon calcul est assez simple. C'est que on fera tout pareil, mais avec 4 fois plus de temps à chaque étape. Donc ça sera, a priori, peut-être pas 4 fois mieux, mais au moins 2 fois mieux. Voilà, donc tout va bien.
Oui, mais excusez-moi pour mon français. J'ai une question un petit bizarre, mais les 10 ans passés, ça semble la croissance de l'animation digitale a été très incroyable.
Oui.
Donc, c'est possible pour être trop animation. Ça semble la concurrence entre les animateurs et les studios est très dur.
Oui, mais non, c'est sûr qu'il y a de plus en plus de propositions. Donc, c'est de plus en plus dur de faire des succès. Mais dans le fond, dans la fiction, il y a des tas de films qui se font. Et finalement, il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. Ceux qui sont réussis, en général, quand même, il faut le dire, marchent. Et ceux qui sont vraiment pas bons, certains marchent malheureusement, mais là, quand même, la plupart ne marchent pas. Et finalement, dans l'animation, on se retrouve un peu face à ce phénomène, mais qui n'est pas non plus anormal, quoi. Je veux dire, il va y avoir plus de projets, mais les meilleurs s'en sortiront et les moins bons s'en sortiront pas. Pourquoi est-ce qu'on devrait finalement... Avant, on était quand même dans une situation qui avait évidemment ses avantages pour nos producteurs, mais aussi quand même quelque chose de pas très normal, c'est-à-dire que même des mauvais projets fonctionnaient parce qu'il n'y avait pas assez d'offres. Donc est-ce que c'est un... Moi je trouve que c'est, comme on dit en France, un mal pour un bien. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est douloureux pour nos producteurs, mais c'est aussi bien de finalement pousser les producteurs à aller vers une qualité supérieure s'ils veulent exister. Et ça finalement, au final, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça veut dire que les enfants, ils regardent des programmes de chaque fois qui ont une meilleure qualité. Et ça, c'est plutôt bien.
Pour trouver les personnes, les ouvriers pour faire l'animation, c'est difficile
que... Alors, c'est vrai que comme il y a de plus en plus de studios et de plus en plus de créations, il peut y avoir une certaine concurrence entre les studios pour récupérer les meilleurs techniciens, les meilleurs animateurs, les meilleurs modeleurs. Mais en France, on a quand même une chance, c'est qu'on a beaucoup de formations de très bonne qualité. Alors c'est sûr qu'on a une partie de nos techniciens qui sont formés en France, qui vont travailler aux États-Unis, à Londres, essentiellement, et c'est dans les pays anglo-saxons, mais il y a quand même beaucoup qui sont français, qui ont envie de vivre en France, ou qui partent quelques années aux États-Unis et puis ont envie de retrouver leur pays. Donc honnêtement, c'est pas facile d'avoir les meilleurs, mais il y a quand même beaucoup de gens bien formés qu'on peut faire travailler. Donc il y a une vraie concurrence, c'est sûr, mais c'est pas, on n'est pas encore dans une situation où on a du mal à trouver des gens. Ça peut arriver d'ici 4-5 ans, mais en tout cas, actuellement, ça reste encore gérable.
Vous parlez de technicien, est-ce qu'il y a une... comment vous définissez le rôle des personnes? Il y a le dialogue entre la technique et la création, vraiment.
Ah ben, enfin, quand je parle de technicien, c'est lié, en fait. Quand je parle de technicien, c'est des techniciens, mais ils sont tous très créatifs.
Voilà.
C'est-à-dire la création dans une œuvre d'animation, elle est à tous les niveaux. Alors bien sûr, il y a quelqu'un qui supervise cette création qui est le réalisateur. Il y a quelqu'un qui supervise la création graphique, c'est le directeur artistique. Il y a après des superviseurs de l'animation, etc. Il y a tout un système très hiérarchisé quand même dans le monde de l'animation, parce que sinon ça ne marche pas, un studio, parce qu'il y a beaucoup de monde. Mais on demande à chacun, à son poste, d'être créatif. Donc finalement tout est créatif, et moi en tout cas dans notre studio chez TAT, je sens que tous ils se sentent impliqués créativement à n'importe quel poste. Donc ça c'est super, et finalement c'est vrai qu'on dit souvent que l'audiovisuel c'est un travail très collectif, c'est peut-être encore plus vrai dans l'animation. C'est vraiment complètement un travail collectif, et c'est un studio qui fait la qualité d'une œuvre. Bon, évidemment avec une histoire, un scénariste, un réalisateur, mais c'est quand même intéressant de voir qu'on a ce phénomène dans l'animation qu'on n'a pas dans la fiction. Dire, en animation, on connaît le nom des studios. En fiction, on connaît le nom des réalisateurs. Et ça, c'est bien un truc qui, pour moi, montre la différence de fonctionnement entre ces deux corps de métiers différents.
Qu'est-ce que les outils numériques, les technologies ont apporté pour vous dans le process? En quoi ça nourrit votre travail?
Ah ben, de toute façon, c'est sûr que les technologies se développent tout le temps, de plus en plus vite, et finalement, il faut les voir comme de nouveaux outils créatifs. C'est-à-dire, avant, il y avait des choses qu'on ne pouvait pas faire, maintenant, on peut les faire, c'est super. Après, ce qu'il faut, moi, ce que je dis toujours, c'est qu'il ne faut pas utiliser la possibilité de tout faire pour faire n'importe quoi. C'est-à-dire, ce qui reste le plus important quand on fait de l'animation, c'est un graphisme, mais encore plus que ça, une bonne histoire. Si on n'a rien à raconter, autant pas faire de film, hein, que ce soit en animation ou en fiction, peu importe, quoi. Mais il faut d'abord une bonne histoire bien écrite, après des graphismes qui correspondent à cette histoire et qui soient sympas. Et après, la technique doit servir que ça, doit servir ce propos-là, à raconter une bonne histoire qui va plaire aux gens. Mais c'est vrai que ces évolutions techniques permanentes nous permettent à chaque fois d'être plus créatifs finalement, puisque ça nous ouvre, ça nous donne de plus de liberté.
Donc vous allez choisir et mixer entre ces techniques en fonction
du projet. Mais après, moi, honnêtement, nous, ça fait quand même 15 ans qu'on existe, et foncièrement, on n'écrit pas et on ne réalise pas de manière différente. Pour moi, un réalisateur, c'est un réalisateur. Nous, un de nos réalisateurs du studio, qui travaille sur la série Les As de la Jeune à la rescousse, c'est un réalisateur de fiction à la base. C'est pas un réalisateur d'animation. Réalisateur, c'est réalisateur. Un réalisateur, c'est quelqu'un à qui on donne une histoire écrite et qui va la transformer en œuvre audiovisuelle pour raconter une histoire. Et ça, finalement, ça n'a rien à voir avec la technique. C'est juste l'art de la réalisation qui est l'art de raconter une histoire sous une forme audiovisuelle.
Mais par contre, tout ce qui est application, notamment éducative et ces choses-là, est-ce que ça, c'est des nouvelles possibilités en fait, d'extension
mais,
de
mais voilà, mais ça, c'est des possibilités d'étendre les histoires, d'enrichir les univers qu'on développe, mais finalement, c'est une autre forme. Moi, mon métier.
C'est-à-dire que vous traitez à part.
Complètement. Moi, mon métier, c'est faire des films, faire des épisodes de séries. Après, c'est sûr que tout ce qui est exploitation dérivée ou extension de l'univers sous d'autres formes, moi je trouve ça hyper intéressant, mais c'est pas mon métier, je sais pas le faire. C'est aussi simple que ça, je sais pas le faire. Donc là, en ce moment, on sollicite plein de diverses sociétés qui vont nous faire des propositions pour nous dire ben, on pense qu'on peut étendre l'univers des As de la Jungle sur ces nouveaux médias de cette manière ou de cette manière. Donc on étudie les propositions et on travaillera avec ceux qui nous feront la proposition qui nous semble la plus pertinente pour étendre cet univers qui, de toute manière, par contre, restera le nôtre.
Avec l'entrée des chaînes digitales comme Netflix, ouais. Amazon, ça a affecté comment vous décidez quelle histoire à dire ?
Non, pour le moment, à notre niveau, ça n'a strictement rien changé. Et Netflix achète nos programmes comme une chaîne normale l'achèterait. Hein. Pour moi, Netflix, c'est quand même en gros une chaîne de télé. Hein. C'est pas parce que c'est un accès digital et qu'on peut aller voir ce qu'on veut quand on veut que ça, pour moi, ça reste une chaîne de télé. Et d'ailleurs, ils sont en train de se positionner actuellement encore plus, je dirais, comme une chaîne de télé qu'avant, puisqu'ils développent de plus en plus de contenu propriétaire exclusif et qu'ils veulent encore plus le faire parce qu'ils ont bien compris que ce qui leur permettrait de se développer, c'est l'exclusivité. Et qui c'est qui fait ça? Ces chaînes de télé. Ils fonctionnent comme une chaîne de télé, c'est pas autre chose. Hein. Donc, on a eu très peur au début. Maintenant, on commence à comprendre que ça sera une chaîne de télé. Sûrement, finalement, l'équivalent d'une chaîne de télé de plus. Parce que, est-ce qu'il y a fondamentalement, une différence entre Netflix ou Cartoon Network, Disney Channel, qui prennent des droits monde et qui diffusent partout dans le monde un programme? Profondément, il n'y en a pas. Ils sont juste en train de créer, de chercher leur identité. Alors, ce qui était bien pour nous, par contre, producteurs, c'est que pendant quelques années, ça donnait une source de revenus supplémentaires qui, à mon avis, va se tarir puisqu'ils vont développer, je pense à terme, pratiquement plus que du contenu exclusif. Ou ils vont faire des output deals comme ils l'ont fait avec DreamWorks. C'est-à-dire que nous, par exemple, ils n'ont pas voulu acheter la série pour certains territoires parce qu'ils ont un output deal avec DreamWorks et qu'ils estiment que ce qu'on fait, c'est trop proche en termes graphiques et narratifs, etc. Donc ils ne vont pas acheter la série sur certains territoires parce qu'ils ont déjà les séries DreamWorks. Et ce phénomène auquel on a été confronté, il y a de plus en plus de producteurs vont y être confrontés. C'est-à-dire qu'ils achèteront, voilà. Soit ils feront du contenu exclusif, soit ils passeront des output deals et puis ça deviendra une chaîne de plus. Quoi.
Vous écoutez FMR CCPU. Be Like You, extrait du Livre de la Jungle, remixé par Yukihiro Fukutomi, extrait d'un excellent album qui s'appelle Disney at the 100 Coffee. Café, excusez-moi, c'est japonais. 1982, Hollywood est dans une frénésie créatrice de films légendaires. Imaginez, Star Wars, Indiana Jones, Ghostbusters, Blade Runner, E.T., Alien... Non, arrête de foutre de mon accent, Chris. Je sais, c'est difficile.
Starfighter.
Ah, Starfighter, oui. Mais l'OVNI vient des studios Disney et s'appelle Tron. Tron, pardon. Tron est un film emblématique, mais il est aussi celui de l'époque où Walt Disney Productions tentait de brancher un film plus adulte. En ces débuts des années 80, les studios d'animation du groupe étaient dans une période de creux qualitatif, avec Bernard et Bianca ou Rox et Rookie, qui étaient quand même pas très beaux hein, au dessin. Le succès Disney de l'époque et la franchise de cinéma La Coccinelle, avec ce ressort vieillot, et je ne parle pas que de la voiture, alors que le film de science-fiction Le Trou Noir, de Gary Nelson, en fut un, à peine éclipsé par Le Chat de l'Espace, réalisé par Norman Tokar, le bien nommé. Le groupe de l'oncle Picsou devait vite trouver une stratégie de renouvellement à moyen terme et sortir du deuil de son regretté fondateur. La nomination comme directeur général du groupe de Ron Miller, beau-fils du regretté Walt Disney, s'accompagne de deux ambitions. 1. Créer des productions plus adultes, par exemple via le label Touchstone. Et 2. Utiliser de nouvelles technologies pour garder une avance sur la réputation d'excellence. Le scénario de Tron est amené par le réalisateur d'animation Steven Lisenberg et Bonnie McBird, laquelle se mariera en 1983 avec Alan Kay, oui, le théoricien de la programmation objet et de l'interface graphique. À l'écran, le beau gosse Jeff Bridges donne la réplique à Bruce Boxleitner et David Warner. Jean Moebius Giraud conçut les costumes, Sid Mead apporta son savoir-faire sur les designs industriels et Peter Lloyd créa les décors. Stephen Lisenberg, réalisant son script, il eut la lourde tâche de gérer une production monumentale en termes d'effets spéciaux. Au final, le film Tron fut jugé comme commercialement peu rentable, 33 millions de dollars de recettes pour 17 millions de dollars de budget. Jugé comme très insuffisant par le board de Disney, très désappointé. Ron Miller, le patron du groupe, fut débarqué et à sa place arrivèrent le trio Michael Eisner, Frank Wells et Jeffrey Katzenberg, lesquels s'écartèrent un temps de l'infographie. Bon, pour mémoire, Katzenberg fut plus tard cofondateur de DreamWorks et le gérant des productions 3D. On est prié de ne pas rire. Pourtant, Tron marqua durablement les esprits et allait introduire sur grand écran de nouveaux univers. Il est probable que sans lui, l'idée du cyberespace des romans cyberpunk de William Gibson, le film The Lawnmower Man, 10 ans plus tard, et la trilogie Matrix auraient été popularisés, mais bien plus tard. Sans compter un réel soutien à une génération de développeurs logiciels à un moment où l'industrie vidéoludique allait connaître son premier crash retentissant. Oui, je reconnais, je me suis amusé à reprogrammer la fameuse course de moto comme des milliers de jeunes de mon âge. Et depuis, eh ben, on est passé de la version en basique qui ressemblait plus ou moins au jeu Snake sur Nokia à de la 3D immersive à la première personne en OpenGL et en réseau avec des intelligences artificielles. Revisionnage du film séminal, comme on dit de nos jours, son rendu n'est pas parfait et pourrait même sembler vieillot pour le public actuel. Il est constitué parfois de plus d'une dizaine de couches de pellicules compositées, images de synthèse, en fait elles sont présentes que pendant 15 minutes du film, éléments de décor du film, acteurs, couches de peinture, effets de lumière faits à la gouache, cache et effets de rétroéclairage. Car oui, les techniques traditionnelles, particulièrement traditionnelles en soi, ne sont pas en reste. Le backlight animation, l'effet de halo, néon, même si discant, est obtenu par un cache et un rétroéclairage de la pellicule, technique très laborieuse et qui à l'époque ne pouvait être obtenue qu'artisanalement. Comme cet effet est très utilisé dans les scènes se déroulant dans le monde informatique, il lui fit aussi grimper astronomiquement le budget de production. Le film marie donc des effets spéciaux tels que Méliès aurait pu les pratiquer, une technologie qui coûtait encore horriblement cher dans les années 80, l'infographie. À l'époque, des dizaines d'entreprises spécialisées, ou plus exactement de start-up, furent sollicitées par les studios Disney pour cette production. Information International Inc., Meiji, Robert Albert en Associate et Digital Effects, qui travaillaient sur des PDP-10 et autres gros barbones qui valaient le prix d'une grosse villa, de ces sous-traitants, il n'en restait aucun dans le secteur 5 années après la sortie du film. Le marché n'était pas encore là. Seul Lucasfilm avait une division prometteuse qui allait survivre à ses heures héroïques. Cette entreprise ne s'appelait pas encore Pixar et Toy Story, le premier long métrage intégralement en images de synthèse, ne sortira que 13 ans après. Pendant ce temps-là, l'animation informatique ne reste qu'une curiosité exhibée une fois par an au festival Imagina à Monaco.
Work it, make it, do it, makes us.
28 ans après, le deuxième film a rafraîchi l'aspect visuel du long métrage originel. Forcément, les cartes graphiques et des ordinateurs protagonistes eurent des mises à jour. La musique de Wendy Carlos, reprise par les Daft Punk, la présence au casting du premier rôle, Jeff Bridges, devenu depuis The Big Lebowski dans un film des frères Coen, mais face à son double maléfique, au visage rafraîchi par infographie, et surtout le fait que les jeux dérivés sur les consoles de salon ont maintenant rendu très proche du cinéma, tous ces facteurs ont aidé à en faire un succès financier. 400 millions de dollars de recettes uniquement pour le film qui a coûté 170 millions de dollars de production. Pourtant, contre toute attente, Disney annula la production du troisième film en mai dernier. Est-ce qu'on devra attendre 30 ans de plus pour la production du prochain opus ? Allez savoir. Mais toute l'émotion reste celle de la réelle découverte, du choc émotionnel qui submergea les spectateurs sur grand écran quand, au début des années 80, il découvra des images froides, géométriques, d'une lumière surnaturelle et clairement pas de ce monde. Wendy Carlos remixé par les Daft Punk, remixé encore par Sulumi, extrait de l'album Daft 8-Bit, Tron Legacy, le générique de fin. Vous écoutez CPU, vous êtes sur Radio FMR. Mignon comme un t-shirt, doux comme une peluche, reconnaissable comme un totem, c'est la mascotte.
À moins d'utiliser encore des crayons et du cellulo, il est probable que vous utilisiez un logiciel d'animation. Les logiciels d'animation modernes gèrent l'animation, la création de modèles 3D et bien souvent le montage non linéaire. Blender est l'un d'eux, mais surtout c'est le logiciel libre le plus connu et utilisé dans cette catégorie. L'histoire de Blender commence en 1995 aux Pays-Bas, quand Ton Rosendahl, cofondateur du studio d'animation Neo Geo, fonde la société Not a Number.
Neo Geo ?
Ouais, si le nom de Neo Geo vous dit quelque chose, c'est normal. C'est le constructeur des consoles éponymes qui s'arrache à prix d'or sur le marché du rétro gaming pour la simple raison que quasiment personne n'en possédait à l'époque.
Enfin, t'en avais dans toutes les bandes d'arcade à l'époque et que ça valait quand même le prix d'un SMIC et demi sans payer une. Hein. Et je parlais pas du prix des jeux.
La société Not a Number a alors pour but de diffuser au grand public un outil de modélisation et d'animation 3D. Le chiffre d'affaires de la société se faisant sur la formation et le développement spécifique vendu aux entreprises. Ce modèle tranche beaucoup alors avec le système de licence à la copie, très en vogue à l'époque, les logiciels de 3D étant très chers. Ce modèle de financement par la formation et le support deviendra d'ailleurs un modèle pour les entreprises, beaucoup d'entreprises, du logiciel libre. En 2001, la société Not a Number ferme faute d'avoir trouvé un modèle économique fiable. À l'instar de pas mal de startups de la bulle Internet 1.0. En 2002, encouragé par la communauté, Ton Rosendahl fonde la Blender Foundation pour financer son logiciel. Il lance alors un crowdfunding et récolte en 2 mois les 100 000 dollars nécessaires pour le rachat du logiciel aux investisseurs. En 2003, la première version open source et libre du logiciel est publiée sous licence GNU GPL. La même licence que le noyau Linux et plein d'autres logiciels libres, qui permet d'utiliser, mais aussi de modifier le logiciel et d'en redistribuer les modifications. C'est à partir de ce moment que les choses sérieuses commencent. Blender est utilisé en 2003 par les équipes de la Columbia Pictures pour la pré-production de Spider-Man 2 et notamment l'édition de storyboard. L'équipe de la Blender Foundation se lance alors en 2005 dans le projet Orange, qui donnera le court-métrage Éléphant. Le but de ce projet est avant tout de réaliser un court-métrage en utilisant uniquement des logiciels libres, principalement Blender, et aussi de mesurer son potentiel pour un usage professionnel au cinéma. Le film fut distribué en DVD, contenant le film, mais aussi tous les fichiers sources et les textures ayant servi à réaliser le film. On retrouvait ainsi l'esprit du libre, celui de rendre disponible gratuitement, mais surtout de pouvoir autoriser et rendre possible les modifications. Dans la même veine, un second projet, nommé le projet Peach, fut lancé en 2007. Il donna naissance au court-métrage Big Bug Bunny, un cartoon assez enfantin dans la lignée des Warner Bros, et pourtant rempli de références adultes comme celles tirées du film Predator. Le problème de la modélisation 3D étant qu'elle nécessite beaucoup de temps de calcul. Pour ce film, l'entreprise Sun Microsystems offrit 50 000 heures de calcul sur leur station SunGrid Engine. Continuant sur leur lancée, la Blender Foundation
oui.
Voilà, lancé en 2009 le projet Durian, et qui donna le court-métrage Sintel en 2010, que je vous conseille de voir car il est magnifique et je vous en dis pas plus pour pas vous le spoiler. Les objectifs de ce projet sont dans la lignée des précédents, à savoir améliorer le logiciel Blender en le plaçant dans des conditions réelles de production.
Ah tiens, c'est moins facile quand on le fait comme ça. D'accord, bon, on va le refaire, le panel.
C'est ça, quand on s'en sert, on s'aperçoit des problèmes. Promouvoir le logiciel et obtenir des retours d'utilisateurs de la part, des retours d'utilisation de la part d'artistes et d'utilisateurs. Pouvoir s'appuyer sur une chaîne de production entièrement open source. Ubuntu, GIMP, Inkscape, bref, ce... détacher un peu de tout ce qui est payant. Car il faut garder à l'esprit que si la communauté open source dispose de développeurs, les logiciels pêchent souvent par leur interface austère et peu ergonomique. Le retour des utilisateurs aussi spécialisés que des graphistes ou des animateurs est donc un besoin constant pour un tel logiciel. La fondation réalisa un quatrième court-métrage, Tears of Steel, sorti en 2012, dans un futur de science-fiction, et s'attelle aujourd'hui à la réalisation d'un long-métrage, le projet Gooseberry. Au final, l'animation évolue. Et les moyens également. Je ne sais pas si un fichier de texture a la même classe qu'un cellulo de Disney, mais revenir à la façon dont on fabrique les choses nous en disent beaucoup sur la chose elle-même. À l'heure du binge-watching sur Netflix, il peut être intéressant de se rendre compte que ces quelques minutes de rendu final prennent des milliers d'heures pour des dizaines d'artistes différents. Et saluer le travail accompli pour ceux qui seraient tentés d'en faire autant.
Eh ben, la cybermétéo, mais là, on a un petit problème technique. Je crois qu'ils sont en grève. Bon, on va lancer quand même le jingle. Tu as un texte de secours sur la vie, s'il te plaît, puisque Myriam n'est pas là.
Ouais. La météo d'Internet.
Eh bien non, Xavier. Pas de météo d'Internet cette semaine en raison d'une part d'un avenir aussi bouché que mes voies respiratoires et de la grève d'une certaine catégorie du personnel de l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, l'ICANN, et de l'IANA, l'Internet Assigned Number Authority. Certains n'en ont rien à faire, et il y en a d'autres que la grève de l'IANA Barbera. A commencer par moi, météorologue d'Internet, avec mon bulletin quasi inexistant, pas la faire peur, ce qui, en passant, n'attaque pas mon moral. Et je suis encore celui qui, de mon texte AVE, rit. Si, si, absolument. J'ai osé écrire ce bulletin fantôme et j'ai ri. Je me moque également que l'amère ICANN badine avec mes prévisions IP. Je ne répondrai même plus à leurs appels téléphoniques. Ça les rendra encore plus amers, Simpson.
Ah.
Ah, si seulement j'étais à Météo France pour parler du doux soleil ou de Blanche-Neige dans un paysage de glace. Tiens, ça me fait penser au
sèche.
Tiens, ça me fait penser aux 7 nains, au prince charmant, à la sorcière. En tout, ça fait 20 bras, 20 jambes et Disney. Une bande Disney qui cartoonne au box-office depuis 78 ans, même si par moment, de son audience, le pic a chu. Ce qui risque d'être également le cas de la météo d'Internet si cette grève est reconduite ou si mes antibiotiques ne font pas l'effet escompté. À la semaine prochaine, peut-être.
Super.
We'll be right back.
C'était CPU, le programme Carré Petit Utile. Pour cette release, l'équipe Myriam Chav, chef driving driver officer au fond de son lib, Chris O'Brien, chef animator officer, Daskrit, chef coloriste officer, Solarus, chef script officer, Marc Olanier, chef intervalliste officer. La release a été shippée avec les moyens techniques d'Equito, de l'onde miroir, de combustible radio FMR. Merci à tous quand même pour leur collaboration. L'intégralité du programme et ses extraits et ses sources sont disponibles sur le site cpu.daskrit.net. Et d'ailleurs, vous pouvez commenter et partager. Prochaine release, les hommes politiques face à Internet. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h. Et si vous nous écoutez sur Radio FMR, en analogique, il est presque midi. Nous cédons donc notre intervalle à une heure impromptue animée par Monique Blanquet. Ciao.